Super, bienvenue à tous. Je suis heureux de vous voir tous, enfin presque tous, parce que certains nous viennent de plus loin et peuvent pas assister ce soir. Mais en tout cas, on est réunis. Comment vous avez vécu le week-end qui est passé? Ça a été deux, trois mots comme ça. Vous avez le smile ou vous êtes super stressé, vous savez pas quelle sauce vous allez être mangé. Comment vous l'avez Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que vous avez été vous avez été ressourcé? Vous avez vraiment envie d'en savoir plus? Ou comment, en quelques mots, pensif, j'ai l'impression que vous êtes pensif. Ouais. Nickel, c'est vraiment l'effet. Ah, génial. Super. Yes. Wow. Super. Merci Elisabeth. Super. Je ne sais pas pourquoi vous avez fait la formation ce week-end parce que. Génial. Franchement, voilà, c'est de l'humour. Super. Moi, j'ai suivi le cursus déjà il y a une année, donc avec Courte, Lise et puis Mathilde, on l'a fait ensemble. Et encore de le refaire, de se replonger dedans, on reçoit plein d'autres choses que Dieu veut nous donner. Donc c'est une aventure qui s'arrête pas, on n'est jamais arrivé. Donc pensez pas qu'un jour vous allez tout savoir, mais vous allez vraiment, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir creuser, recevoir de Dieu des révélations. Et je crois que ça ne s'arrête pas jusqu'à la fin de notre vie. Et Dieu veut se servir de nous d'une façon extraordinaire. Donc voilà, je vous encourage à continuer et on va prier. On va prier pour le début de cette première session et on y va. Seigneur, je te remercie pour ce soir parce que tu nous as conduits en ce lieu et tu es fidèle, j'aime le dire, et tu as en réserve des choses pour nous ce soir. Je te demande au nom de Jésus de parler au travers de ma bouche. Je suis qu'un serviteur, je suis qu'un canal, Seigneur, de ta parole. Et j'aimerais que chacun, chaque cœur puisse recevoir ce soir une révélation, une clé, voire plus, mais repartir avec quelque chose de concret pour sa vie. Et je te demande, Seigneur, de glorifier ton nom. Je te demande, Seigneur, d'ouvrir notre entendement, nos raisonnements, parce que c'est des défis, c'est des challenges qui vont être présentés. Mais je crois, Seigneur, que des grandes victoires sont à la clé, et je crois que ça va porter du fruit au nom de Jésus. J'ai prié, merci, Seigneur. Amen. Amen. Alors, ce soir, en fait, vous l'avez remarqué dans la leçon, c'est une leçon assez courte. Ça me permet de vous présenter le cursus avec quelques petits détails pratiques au départ. Et comme ça, on repart tous sur la même base, parce que c'est vrai que les emails, c'est pas toujours clair. Vous avez des questions peut-être, donc on va pouvoir mettre tout ça à plat et partir après ensuite dans l'enseignement vraiment plus profond. Donc, je voudrais vous rappeler la vision de cette formation. Pourquoi vous la faites? Pourquoi on est réunis, pourquoi on a envie d'aller plus loin, c'est clairement, et dans ce domaine-là, parce qu'il y a plein de domaines que la parole de Dieu aborde, et là c'est un domaine particulier. Donc c'est vraiment que Dieu a en réserve des choses pour nous en tant qu'enfant et en tant que gérant de la terre qui veut qu'on devienne, donc en tant que gérant de la terre qui veut qu'on devienne vraiment assurément, entièrement et pleinement. Donc, si on développe cet enseignement, c'est vraiment qu'il y a une grande partie que Dieu aspire à nous voir vivre, à nous voir expérimenter en tant que ses enfants, et qu'il veut qu'on ait une relation plus personnelle avec lui. Et ça va passer par, bien sûr, l'étude de sa parole, mais sur ce sujet-là, vous allez pouvoir vivre une vraie relation une relation, pardon, plus intime, plus profonde avec lui. Vous n'allez pas, qu'on s'entende, vous n'allez pas, et je vous invite à ne pas rechercher la prospérité ou le succès dans vos affaires, dans votre travail, etc. Ce sont des effets. Ce sont des choses qui vont se produire, des conséquences, merci, de ce que vous allez mettre en pratique lorsque l'enseignement va percuter votre cœur, lorsque dans le secret, vous allez pouvoir chercher la présence de Dieu, les révélations pour votre vie que Dieu va vous donner en rapport avec ce thème. Donc c'est vraiment pour ça que je vous encourage. Et si vous êtes en accord, on peut continuer. Mais sinon, je vous encourage à vous réaligner sur la pensée que Dieu a pour nous au travers de cette formation. Que ce soit juste. Lorsqu'on montre à Dieu qu'on sait gérer nos biens selon ses principes, il peut ouvrir les écluses et déverser sur nous sa bénédiction. C'est vraiment pour ça que, et on l'a expérimenté, des témoignages qui sont à la clé, on a vraiment envie de transmettre quelque chose qu'on va pouvoir expérimenter. Si c'est que du blabla, si c'est que des choses théoriques, si c'est que des principes qui ne sont pas applicables à nos vies et qu'on ne reçoit rien, alors ça ne sert à rien. Mais c'est vraiment parce que Dieu a en réserve des choses pour nous à expérimenter, à vivre pleinement. Alors justement... pour les familles, pour les couples qui sont là particulièrement, je dis ça, de faire vos devoirs, alors devoir c'est un grand mot, mais on va le voir en détail, tout ce qui est dans ce petit cahier que vous avez reçu, je vous encourage à le faire si vous avez la possibilité de le faire en couple. Pourquoi ? Parce que Dieu va susciter des discussions, va réaligner votre vision, va vous donner peut-être des clés ensemble. Et on l'a vécu avec Mathilde, si on avait fait notre parcours séparément, peut-être elle le lundi, moi le mercredi, on n'aurait pas vécu tous ces moments de discussion où on a dit wow, « Waouh, ça nous challenge à fond, qu'est-ce que tu penses de ça ?» Et en fait, on a vu des bénéfices parce qu'en accord dans notre famille, on s'est mis en accord dans notre famille, d'accord ? Et je crois que c'est une clé pour recevoir les bénédictions de Dieu. Kurt parlait souvent qu'il y a un couple, le mari pouvait prier comme ça, la femme pouvait prier comme ça. Ils prient dans le même sens, dans la même direction, mais ils n'étaient peut-être pas unis pour prier la même chose. Et le résultat de l'action de Dieu puissante ne pouvait pas se faire. D'accord ? Ça, c'est une première chose. Je vous encourage à mettre une discipline d'étude en place. Oui, c'est difficile de prendre 2 heures de temps dans une journée peut-être, par semaine, ou alors 20 minutes par jour, c'est difficile dans nos emplois du temps surchargés. Mais c'est vrai que, alors je peux en parler, j'ai un emploi du temps surchargé, mais j'ai décidé, avec Mathilde, on a fait un choix de mettre à part du temps pour ça. Vous mettez à part du temps pour cette formation durant 12 séances ou 12 semaines, peut-être 3 mois, 3, 4 mois, et après c'est fini. Mais je ne vais pas le déclarer ce soir, mais c'est un des plus grands champs de bataille dans lequel vous êtes engagé. On est engagé. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est des grands frères, des personnes qui ont depuis des années expérimenté, été dans l'enseignement sur ce thème, qui le disent. Il n'y a pas 2350 versets pour rien dans la parole de Dieu. C'est un champ de bataille qui est le plus grand par rapport à notre relation avec Christ, on a des oppositions. Et je pense que, comme moi, vous allez peut-être vouloir faire des choses où on va vous proposer un bon plan, etc. Et vous aviez prévu justement à ce moment-là de faire la formation. Mince ! Et vous êtes ballotté entre les deux. Je déclare rien ce soir, mais je vous encourage que lorsque ces moments sont là, à privilégier votre engagement avec Dieu, parce que ça va porter du fruit. Et ça, par contre, je le déclare. Vous allez voir que votre investissement, votre temps, votre travail va vraiment porter du fruit. Et je crois que Dieu honore. Donc c'est quelque chose que je voulais simplement mettre en lumière ce soir. Et puis vous rassurer que oui, c'est pas toujours évident. On a des emplois du temps qui sont chargés, mais ça vaut le détour. Ça vaut le temps de s'y pencher. Alors, très pratiquement, dans le livre, pour être bien au clair, vous avez remarqué la leçon, enfin chaque leçon, vous allez voir, se présente sous trois chapitres, trois onglets. Le premier, c'est le travail personnel. Le second, c'est application. Et le troisième, c'est commentaire. Alors, j'aimerais vous donner quelques précisions sur ça. Donc, le travail personnel, c'est les différentes études des différentes journées, etc., jour 1, jour 2, jour 3, avec l'étude des versets qui sont écrits. Et l'application, c'est l'exercice en rapport avec cette leçon. Vous avez toujours dans l'application un exemple, avec un tableau qui est un peu pré-rempli ou une fiche, etc. Et ensuite, vous avez votre exercice où vous pouvez remplir. Donc simplement, je vous encourage à toujours faire les exercices parce que c'est là que vraiment on voit la mise en pratique et les applications sont là pour ça, en fait, pour expérimenter les principes de Dieu. Mais surtout, dans la partie commentaire, je vais vous encourager à... Enfin, c'est comme ça que c'est déterminé dans la leçon. Le commentaire de la leçon numéro 1 se lit toujours au début de la leçon numéro 2. D'accord ? C'est pour pas que vous ayez les réponses. Donc, quand vous allez attaquer la leçon la semaine prochaine, la première question, c'est lisez les commentaires de la leçon d'avant. D'accord ? C'est ça que j'ai eu du mal peut-être à vous expliquer par email, c'est pour ça que je vais prendre un petit peu de temps pour vous l'expliquer. Donc c'est vraiment, c'est un peu bizarre le principe, mais c'est simplement pour à la fois avoir une connexion avec la leçon d'avant, et puis avoir, c'était un choix qu'ils ont fait. Donc simplement, cette semaine, vous avez une partie commentaire, le troisième onglet, vous n'avez pas besoin de le lire, vous n'avez pas eu besoin de le lire pour aujourd'hui, c'est pour la fois suivante, d'accord ? Et comme ça, on avance un petit peu en décalé. Est-ce que c'est OK pour tout le monde ? Super. Alors, je voulais justement vous préciser aussi que tout cet enseignement, tout ce que je vais dire au micro, etc., c'est pas mon enseignement. Je m'approprie pas ce que j'enseigne ou ce que je transmets. Je vais dire plus ça. Je n'enseigne pas, je transmets un enseignement, une formation, quelque chose qui m'a percuté. Je ne détiens pas j'ai pas creusé tout ce qui est écrit dans le livre. C'est pas moi qui l'ai écrit, mais je le transmets en pensant que c'est vraiment la vérité. Mais c'est simplement ça. Je suis au même niveau que vous. Je n'ai pas la science infuse, d'accord ? C'est l'expression qu'on utilise. Mais c'est simplement, ne voyez pas en moi quelqu'un qui, waouh, lui, il est déjà au top, il a fait une formation, ça fait un an, le gars il vit des trucs. Non, vous allez vivre les choses selon ce que Dieu a préparé pour vous. Et moi, je suis là avec vous, vous pouvez m'encourager, vous allez m'encourager par les expériences que vous allez vivre. Donc voilà, c'est simplement, je veux remettre les choses au bon niveau, on est tous d'accord au même niveau. Ok. Vous allez voir des exercices dans la méthode qui vont vraiment aller dans le détail de vos comptes financiers. J'aimerais vous rassurer tout de suite, ici, ce soir, sur le net, ou peu importe, aucun chiffre ne vous sera demandé. Okay ? Donc soyez juste au clair avec ça. Les exercices que vous faites, on n'épluche jamais votre cahier devant tout le monde. Mais il y a la possibilité, si vous le souhaitez, de venir nous voir, de voir les leaders, les pasteurs, dire « j'ai vraiment besoin qu'on m'aide dans ma gestion financière ». Et là, vous pouvez ouvrir vos chiffres si vous le voulez. Et si vous avez envie d'en parler ouvertement, dire « voilà, j'ai telle et telle somme qui… » Enfin bref, c'est sous votre consentement et uniquement sous votre consentement. Ok ? Donc voilà. Si on peut mettre une chaise encore, super. Ok, donc voilà. Les exercices restent perso et il le reste autant de temps que vous voudrez. Okay ? Pour communiquer, vous avez vu, je vous envoie des emails, j'envoie des SMS, des choses comme ça. Je vous encourage parce que c'est pas évident de savoir qui communique comment avec tous. Donc j'envoie des emails, lisez-les, essayez d'être au courant, ouvrez votre boîte email, c'est pas évident peut-être pour certains ou pour d'autres, c'est un moyen qui est pas habituel, mais c'est simplement pour moi aussi, pour vous envoyer toutes les infos, pour vous donner des précisions. J'essaie d'être le plus clair possible et j'essaie de vous donner le maximum pour communiquer correctement, d'accord ? Donc si vous avez des retours à me faire, n'hésitez pas aussi. Et je vous envoie, donc toutes les séances sont enregistrées, je vais vous envoyer le message de dimanche, toutes les séances comme ce soir sont enregistrées. Donc si vous manquez une séance, ce n'est pas un problème. Le seul problème, c'est que vous ne pourrez pas poser des questions en live, entendre des témoignages, peut-être un encouragement d'une personne pour vous directement, mais vous aurez tout le contenu en tout cas. La prise de parole durant la séance, alors il n'y a pas que moi qui parle, ça va être interactif, plus ou moins, alors en fonction des thèmes et des sujets, en fonction du temps imparti, on a un timing, et c'est vrai que pour respecter ce timing, là c'est le week-end, certains travaillent peut-être demain, mais en tout cas, on ne peut pas se permettre de dépasser de une demi-heure, trois quarts d'heure, et on l'a expérimenté quand on a fait la formation, ça va très très loin, ça peut aller très très loin. Donc, ne soyez pas frustrés si je vous coupe, si je vous renvoie à une discussion qu'on pourra avoir plus tard, etc. Mais que les choses soient claires et définies tout de suite, c'est juste pour le bien du groupe, pour qu'on puisse vraiment avancer, et puis que surtout ne soyez pas frustrés. Donc, si vous avez des questions, notez-les sur votre petit cahier. Est-ce que tout le monde a eu un petit cahier comme celui-ci ? Qui c'est qui n'en a pas eu ? Super. Bien. Donc Mathilde a eu à cœur de vous faire ce petit cadeau. Utilisez-le pour noter vos questions. Si maintenant voilà, on ne prend pas le temps d'y répondre tout de suite, mais au moins vous l'avez noté. Et par contre, en dehors des séances, par email ou quoi que ce soit, on peut toujours répondre. Toutes vos questions doivent trouver des réponses. Okay, et si on ne les a pas, on va les chercher ensemble. Okay, voilà. Donc, la prise de parole, pour que l'enregistrement fonctionne bien, on va vous passer le micro. Donc avant de parler, demandez le micro, voilà, on l'a sur le côté, pour que vraiment les personnes sur l'enregistrement, vous plus tard, vous pourrez vous entendre parler. Si vous n'avez pas le micro, ça passera beaucoup moins bien. Ok ? Donc c'est noté. Ok. Super. À la fin de la séance, en principe, chaque personne, alors on va voir comment on peut le faire pour que ça aille vraiment, vraiment vite, parce qu'on est énormément de personnes, on est beaucoup. Vous avez le droit et on vous incite vraiment à donner un sujet de prière. C'est pas juste pour donner un sujet de prière, si vous avez envie de donner un sujet, vous le donnez, sinon non. Mais en gros, c'est vraiment important, lorsque deux personnes s'unissent pour prier, lorsqu'un groupe comme ça, c'est une chaudière, un groupe, on va essayer d'être unis, si vous ne connaissez pas les uns les autres, c'est le but, c'est de créer des liens, des amitiés, etc. Parce qu'après, ça sert pour la suite de la vie, quoi. Après la formation, ça ne s'arrête pas là. Moi, je garde des contacts avec des personnes de Genève et on s'encourage, même si c'est une fois par année, mais on s'encourage et on vit des expériences qui peuvent nous fortifier. Donc, on va pouvoir donner des sujets de prière à la fin de la séance et les uns et les autres, durant la semaine, on prie, on intercède, on demande à Dieu de répondre, etc. Mais la seule chose que je vous demande, c'est que votre sujet de prière soit précis. J'aime bien parce que souvent le thème, c'est pour la paix dans le monde ou pour la paix, d'accord, mais c'est le thème, on utilise souvent cet exemple qui est assez vague, mais soyez très très précis, vous voulez une réponse précise de Dieu, vous voulez ne plus hésiter quand Dieu répond à des prières, si vous êtes précis, il va répondre précisément, ok ? Donc c'est la seule chose que je vous demande, et donc si vous avez envie, on le fera à la fin de la séance, à la fin de chaque séance, donc toutes les semaines, vous pouvez changer de sujet et dire voilà, Dieu a répondu. Amen. Voilà. Ça marche ? Est-ce que je suis clair ? Super. Cool. Je fais un petit peu de pub, mais je vais raccourcir mon temps sur ce thème-là. J'ai été percuté par un témoignage de Kurt. Il s'est simplement mis en prière avec un gars qui ne croyait pas en Dieu, mais il lui a dit tu veux que mon Dieu fasse quelque chose pour toi ? Je voulais raconter à l'église un dimanche matin. Un gars qui a été poursuivi par un créancier qui avait mis un contrat sur sa tête. Et ils ont prié le soir même. Le gars a abandonné ses poursuites et a dit je vous laisse libre. Et juste parce que Kurt a proposé à son ami de prier, de se mettre ensemble, parce que deux personnes qui s'unissent et qui sont en accord sur le sujet, eh ben, Dieu fait des miracles. Okay ? Donc vous pourrez l'acheter, vous pourrez lire son témoignage. Je n'ai pas lu le témoignage de Lise, mais... les deux sont très très puissants et ils nous encouragent pour aujourd'hui encore. 15 euros ? Ok. Ouais, 15 euros. Donc ce point-là sera abordé dans le thème de l'honnêteté dans chapitre 5. Ok. Alors, le dernier point avant de commencer la leçon, dites-le dans le micro, sinon les gens sur l'enregistrement ne vont pas comprendre. Le dernier point, et vous l'avez peut-être lu, j'espère que vous l'avez lu, c'est les versets à apprendre. Alors, un petit peu de lumière là-dessus. Il y a écrit dans le cahier que vous pouvez découper la dernière page. Vous avez toute une liste avec des versets qui sont bien encadrés, etc. Vous n'avez pas besoin de le faire. Si vous l'avez fait, c'est pas grave. Mais moi, je trouve que c'est dommage de découper un si beau livre, surtout qu'il y a une illustration qui est juste derrière. Donc, c'est un peu dommage. Nous, on l'a pas fait. Donc, je vous encourage plutôt à prendre un bout de papier ou votre ordi. Vous refaites une liste. Ça vous permet de réécrire les versets. Ça fait déjà un premier travail. Et de vous faire votre petite liste que vous pouvez découper, mettre dans votre portefeuille et puis l'emmener sur vous. Donc, le but, en fait, d'apprendre un verset par semaine et de le savoir. Donc, on va voir comment on va faire. Alors, je vous dis pas que ça va être toujours comme ça, mais en principe, quand on commence la séance, je demande à quelques personnes, voilà, est-ce que tu peux réciter le verset de la semaine? Est-ce que tu peux le dire au micro? Pourquoi on vous challenge comme ça? C'est simplement parce que il y a une puissance. Et j'insiste tellement sur le fait de déclarer la parole de Dieu à haute voix. Vous pourrez apprendre les versets par cœur. Vous pourrez les savoir dans votre tête. Oui, je suis un enfant de Dieu. Non, 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 non. Ok, le Seigneur pourvoit à tous mes besoins. Non, 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 non. Ok, c'est très très bien de le savoir par cœur. Et Dieu peut se servir de ça pour vous rappeler un verset et vous le mettre dans votre tête pour vous parler à vous. Mais vous avez besoin de le déclarer et que le monde spirituel l'entende pour que ça déclenche des choses dans votre vie. Et j'aimerais prendre juste quelques minutes pour vous appuyer un encouragement tiré de la Bible justement pour apprendre ces versets. Pourquoi apprendre des versets par cœur et juste pouvoir les déclarer? La foi, votre foi, va grandir. Et c'est une raison, je crois, suffisante pour déjà s'y lancer. Votre foi va grandir. Romains 10, 17. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. D'accord ? Vous prenez la Bible, c'est la parole de Dieu. La foi vient, si on prend un verset, et on commence, il n'y a pas écrit de ce que l'on dit. Ah non, il y a écrit de ce que l'on entend. Vos oreilles ont besoin d'entendre la parole de Dieu. C'est pour ça que le dimanche, quand on entend un message, ou la semaine, ou un ami qui nous encourage, si on entend, la foi peut grandir. Ce n'est pas le seul moyen, mais c'est un des moyens. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tout le monde connaît ce verset. Si on est un petit peu dans le parcours de la vie avec Dieu, on l'a entendu ce verset. Mais quand je l'ai expérimenté vraiment, alors que quand je m'approchais de Dieu, je ne croyais pas qu'il pouvait répondre forcément à tous mes problèmes, j'avais besoin de le croire. Il ne pouvait pas agir parce que je ne croyais pas. Je prenais ma douche et j'avais besoin de déclarer « Au nom de Jésus maintenant, je vais dans mon temps de prière et je m'attends à recevoir. » Et la foi grandit comme ça. Donc si il y a un enfant de Dieu sur cette terre qui déclare la parole de Dieu, wow, Dieu il voit en bas là, il fait wow, lui il est en train d'hurler la parole, c'est ma parole, ouh, il faut que j'honore ma parole et il va agir. Donc c'est très important. Ces versets, c'est des versets qui sont puissants. J'en ai expérimenté quelques-uns et je vous encourage à les dire, à les proclamer à voix haute, d'accord ? Et c'est pour ça que justement, pour que la foi grandisse en vous, et avec cette foi, Dieu va faire des miracles, va travailler, va faire grandir des choses dans votre vie, il va dire, waouh, il y a un petit peu de foi, il y a juste un petit peu, il n'y a pas besoin de beaucoup de foi pour faire des grandes choses, on est d'accord. La deuxième chose, et là, je ne creuserai pas trop ce point ici ce soir, mais je peux vous encourager à vous donner les références. Psaume 103, verset 20, dit que lorsqu'on parle la parole de Dieu, les anges entendent et ils travaillent avec la parole de Dieu. Et j'ai entendu des témoignages, Et j'étais encouragé sur ça que lorsque vraiment je déclare un verset, il n'y a pas seulement Dieu qui entend, mais Dieu travaille avec des anges. Il nous a placé des amis autour de nous, dans le monde spirituel. On ne les voit pas toujours, mais je crois que lorsqu'un ange, en tant qu'un enfant de Dieu, déclare « Oui, dans ce problème, j'ai la solution, mon Dieu vient à mon secours, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, etc. » Alors on va faire en sorte qu'il manque de rien, on va faire en sorte que... Et j'ai entendu des gens qui ont vécu des expériences avec des anges, et voilà. Donc je ne creuserai pas ce point, mais sachez que Dieu en parle dans sa parole. « Bénissez l'Éternel, vous ses anges », donc psaume 103, verset 20, « Vous êtes puissants en force et qui... vous qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Ok ? Donc, c'est pas ma parole, c'est pas quand je dis mes propres mots, etc. C'est quand je prends la parole de Dieu et je la mets en application verbalement. Il y a quelque chose qui se passe spirituellement. Quand on fait ça dans les lieux célestes, je crois que des actions sont menées et en notre faveur. Dieu ne fait pas en notre défaveur, il fait en notre faveur. Ok ? À creuser, mais en tout cas, soyez encouragés. C'est pour ça qu'on apprend les versets et c'est pour ça que oui, il faut s'y pencher, il faut le répéter 10 000 fois et puis au bout d'un moment, ça rentre et après, on peut le déclarer dans notre chambre et voir les bénéfices de sa parole dans nos vies. Amen. Cool. Après avoir donné beaucoup d'infos, indigeste, on va commencer. On va commencer simplement à rentrer dans les choses plus profondes ce soir du travail personnel, premier jour, si vous êtes avec moi. Lisez Ésaïe 55, versets 8 à 9. Et la question est, selon vous, ce passage s'applique-t-il également à la gestion des biens à notre époque ? Alors, est-ce que quelqu'un a Ésaïe 55, versets 8 à 9 ? Sous les yeux et on peut donner le micro. Okay. Vas-y.
En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées.
Merci. Est-ce que quelqu'un veut partager la réponse à la question suivante ? Selon vous, ce passage s'applique-t-il également à la gestion des biens à notre époque ? Est-ce que quelqu'un est inspiré et veut partager ce qu'il a répondu ? Oui ? Non ? Ok.
Moi, j'ai remonté un peu plus loin et au verset 3, il dit « Je traiterai avec vous une alliance éternelle. » Donc, si c'est éternel, c'est que ça peut aussi s'appliquer à notre époque.
Excellent. Ok. Quelqu'un d'autre ? Oui, quelqu'un d'autre. Okay. Faites-vous peut-être passer le micro, ça évitera déplacement de vent. Ok.
Moi, je comprends ça comme si, ouais, comme Dieu est souverain, en fait. C'est lui le maître même de mes biens. Donc, il m'a juste nommé comme administrateur. Donc,
d'accord.
Voilà.
Donc, tu penses qu'aujourd'hui...
Aujourd'hui, mes biens appartiennent à Dieu.
Ok. D'accord, très bien. Dernière réponse ?
Moi, j'ai pris la question dans le sens actuel. Et du coup, j'ai répondu non. pour dire que dans le sens que dans le système du ciel et celui de la terre, c'est diamétralement opposé, quoi, comme on a dit la dernière fois.
Okay.
Que les principes sont vraiment différents. La provision... Ben voilà, la différence entre la provision et l'appauvrissement, tout ça, quoi.
D'accord.
Enfin, le don, tout ça.
D'accord. Le fait que Dieu dise que ses voix ne sont pas les nôtres, tu penses que justement, on a quelque chose à creuser qui est Bah, pour nous aujourd'hui, mais c'est simplement que c'est complètement différent de ce que nous on pense aujourd'hui, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Différent okay. du monde aujourd'hui, ouais. En disant que c'est en haut et l'autre en bas.
Ok. Effectivement, donc justement, c'est toujours d'actualité et je pense que ça rejoint ce que tu penses. C'est simplement que l'économie de Dieu est basée sur des principes complètement différents des nôtres. Mais c'est toujours actuel et bien sûr que Dieu veut nous communiquer ça. Et c'est pour ça qu'on fait la formation. Donc justement, le plus gros challenge de ce parcours ensemble, c'est changer de mentalité. D'accord ? C'est ce que Dieu veut et il le dit dans sa parole en Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, le siècle actuel, le 21e siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a plusieurs choses. Il y a des bonnes choses pour nos vies, il y a des choses agréables, il y a des choses parfaites pour nos vies. Et à nous, justement, de nous conformer à ce que Dieu veut. Et pas au siècle présent, donc ça veut dire pas ce qu'on peut trouver dans le monde. Et ça, c'est je pense que c'est ce qui rejoint la pensée d'Ézéchiel. C'est vraiment de commencer à dire, ok Seigneur, je crois que ma mentalité a été formatée peut-être par des principes qui ne sont pas justes. Donne-moi tes principes et il va nous en donner. Ok ? Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc c'est valable pour tous les domaines de notre vie, mais à combien plus forte raison dans le domaine justement abordé dans la parole de Dieu, plus de 2350 fois, je le répète, et c'est vrai qu'on va le voir beaucoup de fois, ce chiffre vraiment est marquant parce que c'était pas une centaine de versets près par rapport à la foi ou à la repentance ou au pardon. C'est vraiment, vraiment exagéré, quoi. C'est énorme, quoi, dans la parole de Dieu. Ok, ça va pour vous? Super. Deuxième jour, d'après vous, la question est la suivante. Quelles sont les différences principales entre les principes financiers de Dieu et les nôtres? Les différences principales entre les principes financiers et les nôtres. Est-ce que vous pouvez donner, est-ce qu'on peut donner des exemples?
En fait, j'ai pas vraiment d'exemple. C'est simplement que les principes financiers de Dieu, ils n'ont pas de limite, ils n'ont pas de frontières. C'est que Dieu est tout puissant, donc voilà. Alors que nos principes, ils sont intellectuels. On a construit des modèles économiques, on en construit encore aujourd'hui des nouveaux modèles économiques, mais ils sont charnels, quoi. Ils sont pas spirituels.
Ok, très bien.
Alors, ma femme et moi avons simplement repris Kurt en disant que le principe de Dieu c'est donner et recevoir et le nôtre c'est acheter et vendre.
Exactement. Ok, quelqu'un d'autre?
Oui, pour le Seigneur, il a en vue la multiplication et pour nous c'est l'addition.
Exactement. Je ne sais jamais s'il y a 2D à l'addition. Addition. Ok. Voilà. Ok. Très bien. Quelqu'un d'autre encore veut partager? C'est quel?
Alors moi j'ai mis que dans le ciel les échanges étaient à somme positive. Parce que quand on donne, on s'enrichit. Et voilà, pas par rapport à ici, quoi.
Ok, c'est l'inverse, quoi. C'est ici, si tu donnes, quelque chose qui s'enlève, alors que dans le royaume de Dieu, ça se crédite, quoi. Ça.
Ouais, c'est ça.
Ok. Ouais, je me mets dans donner, recevoir. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager encore? Yes.
Dieu, il a, comment dire, il a, tu vois les vraies valeurs. Lui, il prend en compte les vraies valeurs, comme l'or et l'argent. Et
d'accord.
L'argent, le métal précieux. Oui. Et nous, on prend en compte l'argent, qui est tellement dilué, qui n'a même pas une base réelle pour sa valeur.
Exactement.
L'argent, le papier, et, non, les choses,
ouais,
que,
exactement. La monnaie. Ouais.
Nous, on s'appuie sur quelque chose qui n'est pas réel, irréel. On peut dire que c'est irréel. Puisqu'il n'a pas
de
une base... oui.
Pas de contre-valeur.
Voilà, contre-valeur. Mais Dieu, il a... comment dire? Il s'appuie sur l'or, l'argent, les pierres précieuses. Je ne sais pas comment dire. Non? La richesse, le point de vue de Dieu.
Mm-hmm.
Elle est bâtie sur l'or, argent, et de notre point de vue, sur des choses... futile.
Ouais. Ouais. Ça va?
Dans le monde, les principes financiers dominent sur le monde et spirituellement, pour Dieu, c'est Dieu qui domine, en fait, qui a le pouvoir sur les principes financiers. Enfin, dans l'idée de les principes financiers... l'homme est dominé par ça dans le monde, et pour Dieu, on ne devrait pas être dominé par les principes financiers, mais on devrait les dominer. Ou,
okay.
Je ne sais pas si les mots sont justes, mais...
Ok. Ouais, Josiane, ouais.
Moi, j'avais mis que nos principes financiers sont périssables et ceux de Dieu sont éternels.
Ok, très bien. Ok, alors, éternel, périssable.
Je voulais juste dire que dans le système de Dieu, on est censé être maître en fait de l'argent. Et dans le système du monde, c'est l'argent qui asservit l'homme. Okay. Et puis aussi dans le système de Dieu, le travail, c'est une bénédiction. C'est censé être un sujet d'épanouissement, alors que dans le monde, c'est plus une tendance de souffrance en fait et de malédiction pour beaucoup de personnes.
Ok. Tu le résumerais comment, sous deux mots clés? Esclavage, ici.
Oui, ici, l'esclavage.
Ok.
Et ici, c'est un trésor, comme le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité.
Ok. Parce que esclavage, c'est plus la
par rapport à l'argent qui a servi.
C'est la condition.
Et ici,
esclavage, c'est... liberté ou.
Oui, c'est ça, liberté.
Ok. Ok. Juste un dernier. Très bien.
Oui, pour moi, c'est les finances de Dieu, c'est pour construire, partager, multiplier. Mais pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, quand je reçois ces bénédictions, des fois, je les prends pour moi-même. Alors que c'est une erreur, il faut partager, il faut multiplier.
Très bien.
Et c'est ça pour de ma conception. C'est...
Très bien. Alors, pour vous partager quelques points, pour Dieu, donner généreusement pour aider, c'est justement ce que tu dis, Aristide, c'est son cœur. C'est donner généreusement pour aider les autres. Et le monde, c'est recevoir. Plus je reçois, mieux je me porte. Amasser, entasser et de l'argent ou quoi que ce soit, des biens. Donc c'est ce que tu disais, Aristide, c'est juste. Y a l'honnêteté pour Dieu et voler, détourner, escroquer les gens pour le monde. Il y a travailler, donc c'est ce qu'on évoquait quelquefois, travailler pour Dieu. Et y a les jeux d'argent, par exemple, pour le monde. Dieu aimerait qu'on soit prospère au travers du travail, et pour le monde, c'est gagner facilement de l'argent le plus rapidement possible et s'enrichir, quoi. Y a la liberté, ce qu'on disait, et l'endettement. Dieu veut qu'on soit libre et le monde veut qu'on s'endette le plus possible au profit de certains. Il y a l'abondance pour Dieu et la peur de manquer pour le monde, le juste assez. On reste juste ce qu'il nous faut, pas trop dépasser, enfin, avec des craintes. Ok. Pour tout ça, justement, Les principes de Dieu, c'est ce qu'on va aborder dans la leçon, dans les différents thèmes qu'on va parcourir. Et je vous encourage justement à mettre des actions en accord avec les principes de Dieu dans votre vie. On va connaître les principes, mais vous pourrez toujours les connaître jusqu'à la fin de votre vie si les principes, vous ne les mettez pas en pratique, en action, déterminez pas une action suite à un principe, ça ne va pas changer. Kurt le disait très bien, on a eu l'information, il faut la formation, et c'est là où on se challenge, où on va voir des choses ensemble concrètes, il faut du concret pour avoir une transformation et vivre des changements. Okay ? Mais vous pourrez connaître, vous pouvez avoir toute la connaissance, mais si vous ne la mettez pas en pratique, voilà. C'est très important parce que, on l'a vu avec Mathilde, on connaît des choses, on sait que c'est à faire, on sait qu'il faut le mettre. Il faut qu'on s'arrête dans notre emploi du temps, qu'on dise maintenant, on va déterminer qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ce principe-là. Mais on se fait voler notre temps et on repousse. Et je crois qu'il y a vraiment des choses qui se passent comme ça lorsqu'il y a une clé énorme qui vient. Lorsque c'est une clé et que notre vie va vraiment pouvoir en bénéficier. Donc, on a aussi du travail. C'est là où je disais qu'on est vraiment, challengé comme vous. Donc, en tout cas, soyez encouragés sur certains principes qu'on a mis en pratique, en action. On a des changements. On a des changements qui sont palpables, qui sont concrets. On va en parler. Et puis, si vous avez des témoignages, n'hésitez pas. Le troisième jour, lisez Luc 16, verset 11. Qu'est-ce que ce verset nous communique sur les conséquences d'une gestion fidèle des biens ? Qu'est-ce que ce verset nous communique sur les conséquences d'une gestion fidèle des biens ? Qu'est-ce qu'un quelqu'un veut répondre ? Jonathan, oui.
Ben, en fait, moi, ça m'a beaucoup parlé sur le fait de la responsabilité et que Dieu, il teste notre capacité à gérer. Non seulement les biens, je me suis rendu compte, mais toutes les tâches qu'il nous donne, quoi, et ou tout ce qu'il nous demande de faire. Et avant de nous donner des richesses, il regarde d'abord si on est un bon gestionnaire.
Excellent. Quelqu'un d'autre ? Ouais, Bruno.
J'ai marqué être fidèle dans les petites choses.
Très bien. Quelqu'un d'autre ? Elisabeth ? Ouais.
Comment je veux dire, remercié par son maître, ça, ouais. Alors qu'il a triché. Puisqu'il a mis sur les papiers, ben tu dois 100 à mon maître, et ben tu mets 80, tu dois 50, et ben tu mets 20. Donc je comprends pas la parabole. Je te l'avais dit d'ailleurs. Bon.
En lisant, on comprend pas trop, mais il a dit celui qui a mis 100, celui qui doit 100, écrit 80. Ça veut dire c'est avant on remplissait des cahiers. Comme un chèque, comme si on allait à la banque en disant voilà, eh bien voilà, je veux faire un chèque de 80. Je vais déjà payer 80. Il devra toujours les 20, mais fais un chèque de 80. Voilà. C'est écrit. Celui qui doit, il écrit comme ça. Combien dois-tu à mon maître ? 100 mesures d'huile. Il lui dit prends ton billet, assieds-toi, écris 50. Non. Il dit, tu dois 100, écris, fais-moi un chèque de 50. Voilà, au moins, tu auras déjà réglé une partie de ta dette. Et le maître, il dit, ben finalement, il n'a pas été correct dans ce qu'il avait fait avant, mais au moins, il a été assez judicieux pour récupérer l'argent, une partie de l'argent qu'il devait. Voilà. Une partie, pas tout. Ça s'appelait des billets à ordre. Donc on remplissait un billet à ordre et puis on payait. Voilà.
Moi, je voulais rajouter, en fait, ça marche, pour expliquer, en fait, l'intendant, il allait se faire virer. Donc, pour qu'il se fasse bien voir après, par la suite, pour qu'il retrouve un travail facilement, il y allait voir ses compatriotes en leur disant, bah, au lieu de me devoir 100, tu me dois que 50. Comme ça, il se faisait bien voir pour qu'après, quand il se retrouve au chômage sans travail, il puisse aller voir un tel et un tel en disant, au fait, tu étais dans la galère, je t'ai aidé, et maintenant, est-ce que on peut travailler ensemble ou quoi? Enfin, moi, je le comprends comme ça, alors, pour qu'il se fasse bien voir, parce que c'est... Il n'était pas croyant, il n'appliquait pas les principes de Dieu, il trichait dans ce qu'il faisait, mais au final, c'était pour la suite, pour qu'il retrouve un travail, pour pas qu'il se retrouve à la rue. Donc, et c'est comme ça qu'à la fin du verset, il conclut en disant « Les gens de ce monde sont plus rusés que les enfants de Dieu. » Donc, voilà, après, c'est à débattre, mais avec les riches. Ouais, voilà.
Alors, justement, dans ce verset, on a justement là, envie de dire « Mais c'est pas juste, c'est injuste. » Le principe qui est derrière le fait de détourner ou justement de donner, de réduire la partie qui est due, c'est pas ça que l'intendant il valorise. Mais la pensée, il est en train de montrer que justement la façon dont il a essayé de s'en sortir et essayé de trouver une issue et de récupérer une partie, comme ce que disait Raymond, déjà une première partie, après on ne sait pas la suite, ben, c'est ça qu'il est en train de louer. Il dit, ok, tu sais où tu en es, et tu as essayé quand même de te débrouiller et puis de t'en sortir, même si ce que tu voulais faire, c'est pas correct. Mais il y a des gens, quand ils sont dans un problème, l'issue de leur problème, la solution qu'ils vont essayer de chercher, elle peut être complètement... voilà, par exemple. Alors que là, il est en train de louer et dire... Okay, il loue pas le principe mauvais qu'il y a derrière de faire de la magouille, mais il est en train de dire, ok, toi-même qui sais où c'est que tu vas dans la détresse et dans le... Où, ben bien sûr, il disait qu'il n'aura plus de travail, etc. Il se dit, bon, je vais quand même essayer de me faire bien voir. Et puis, c'est ça qu'il est en train de montrer. Il dit, ok, et si même des gens qui ne connaissent pas Dieu arrivent à trouver des solutions, pourquoi nous, les enfants de la lumière, on n'aurait pas aussi des si je me trompe, Raymond, tu peux intervenir. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne trouverait pas aussi des solutions pour s'en sortir et puis pour justement... mais du bon côté et du côté qui est honorable devant Dieu avec les principes de Dieu. Est-ce que c'est assez clair? Est-ce que quelqu'un...
Le maître le loue parce qu'il a trouvé une issue. Il n'a pas tout récupéré, mais il a au moins fait l'effort de récupérer une partie avant d'être viré.
C'est ça.
Ouais, je voulais juste rajouter par rapport à ça, je pense que c'est vraiment une illustration pour nous dire que quelque part, quand on est noyé dans une difficulté, dans des dettes ou dans ce genre de choses, de ne pas faire l'autruche et de quelque part faire face et trouver une solution. Voilà.
Tout à fait. Ouais.
Alors moi, je suis désolé, je n'ai pas du tout le même avis que vous.
Okay.
Est-ce que je peux exprimer mon avis ou...
Pas de problème.
Peut-être que tu veux qu'on avance.
Il n'y a pas de souci.
Par rapport à ce que tu disais, Raymond, j'ai plus la sensation que ce gérant est allé voir les personnes qui devaient des dettes à son maître en disant, donc, inscris 50, fais comme si tu avais déjà réglé une partie de ta dette. Comme ça, la dette était passée, vu que le papier il était là pour justifier qu'il avait rendu 50, mais il ne les avait pas rendus. Dans l'objectif que quand il sera viré, qu'il puisse retourner vers ces personnes et dire, voyez, je vous ai rendu service, rendez-moi aussi un peu l'appareil. Et quand je comprends le verset 9 qui dit « Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses trompeuses de ce monde, afin qu'au moment où elles n'existeront plus pour vous, on vous reçoive dans les demeures éternelles. » je comprends surtout que cette parabole nous montre que le gérant était mauvais et qu'à l'inverse de ce gérant, Dieu nous appelle à être de bons gestionnaires sur la terre pour se faire des amis donc, avec les richesses de ce monde pour que quand on sera sur le ciel, on puisse aussi être de bons gérants. Après, c'est mon avis aussi.
C'est pas on peut l'apprendre comme c'est comme on le sent et puis c'est très bien hein, c'est très bien. C'est la plus grande des injustices, c'est qu'un juste soit mort pour des injustes. Et ça c'est la plus grande des injustices. Et ça on peut se faire un ami de cette injustice, Jésus qui soit mort sur la croix. Voilà. Petite conclusion qui n'a rien à voir.
Okay. Alors justement on pourra aborder ce point plus en détail en dehors de la formation si Elisabeth ça te chagrine encore et qu'il y a besoin d'éclaircissement. Et je sais, je vais simplement retrouver l'explication. J'en ai une dans un livre que je vais voir aussi avec Raymond. Je vais vous apporter des choses plus précises sur ça. Je ne les ai pas ici là ce soir, mais en tout cas, je le ferai. Je vais me le noter. Ok, oui, donc. Est-ce que quelqu'un d'autre a une réponse par rapport à la question à la question du troisième jour ?
Vraiment, j'ai noté donc sans tout comprendre, Dieu voit dans le secret de nos pensées et actions du quotidien là où les hommes ne le peuvent pas et Dieu nous sonde.
Donc il voit. Comment on gère et au fond de nos cœurs, ce que les hommes ne voient pas, notre façon de penser, lui il sait. Ok. Ouais, nos intentions et d'accord. Oui.
Moi, ce que j'avais noté, c'est les conséquences donc d'une gestion fidèle des biens. J'ai pensé au verset qui dit bravo, bon et fidèle serviteur, tu fais la joie de ton maître. Donc j'ai noté que les conséquences, c'est la joie de Dieu envers nous.
Exactement.
Moi, j'ai... en fait, quand il parle de richesse injuste et de véritable, comme si l'injustice, les richesses injustes, ça se rapportait en fait au domaine terrestre et les véritables au domaine céleste et qu'on est amené à être des gérants puisque tout ce qui est sur la terre est imparfait. Donc on a amené à être fidèle dans ces richesses injustes pour être capable. C'est comme si on se préparait en fait à l'éternité. Voilà, c'est ça. Donc si on gère correctement sur la terre, vu qu'on est amené aussi à gérer des patrimoines célestes, et ben on sera prêt et avisé pour faire ce qui est convenable.
Super, super.
C'est quoi les richesses injustes? L'injustice dans le sens que tout ce qui est sur la terre n'est pas parfait, en fait. Dans le sens, par exemple, dans le ciel, la beauté, les routes, enfin les fleurs, par exemple, si on prend une fleur sur la terre et une fleur au ciel, la beauté ne sera pas la même. Il y a un degré de perfection qui est inatteignable et incomparable. Mm-hmm. Donc sur la terre, voilà, il y a ce côté, malgré nous, la beauté qu'on perçoit avec nos yeux, il y a un côté fané. C'est dans ce sens-là.
Et du coup, en conséquence d'une gestion fidèle des biens, moi, je pensais plutôt à la suite du verset que tu viens de citer. Puisque tu as été fidèle dans les petites choses, je te confierai de grandes choses. Et pour moi, la gestion fidèle des biens de Dieu, c'est ce qui déclenche la multiplication, en fait. Je pense que la fidélité dans ce domaine est le déclencheur de la multiplication. Voilà.
Ok.
Ouais, c'était juste par rapport aux richesses injustes. Moi, je l'ai aussi un peu compris dans le sens, par exemple, je bosse pour une entreprise, même si les valeurs de l'entreprise ne sont pas forcément toujours justes, mais qu'ils me demandent de m'occuper, par exemple, d'un secteur ou de quoi que ce soit, mais c'est d'être correct dans même les richesses qui sont à quelqu'un d'autre, parce que quand on travaille dans le séculier, souvent, on a à gérer des choses qui ne nous appartiennent pas. Mmh.
Ouais, très bien. Alors, je vous pose la question. Alors, on va laisser encore juste la parole à Ezekiel.
Ah, mais juste repris la réponse de Sarah et j'ai rajouté à la fin protection dans les périodes de disette. J'appelle ça comme ça.
Effectivement. Alors, justement, ça, c'est les effets d'une bonne gestion ou c'est les conséquences, effectivement, d'une gestion fidèle. Moi, je vous pose la question en sens inverse. Pour vous, c'est quoi les vraies richesses ? Parce que c'est finalement ce à quoi Dieu nous appelle ou aspire pour nous. Prends juste le micro, Justine.
Pour moi, les richesses... T'as dit quoi ?
C'est quoi les vraies richesses pour vous ?
Les vraies richesses, ben, pour moi, c'est celles qu'on attend au ciel, quoi. C'est mm-hmm. céleste. Ça, c'est les vraies qui sont éternelles.
Ok. Ok. C'était là ?
Moi, j'aimerais juste ajouter que la vraie richesse, c'est l'amour, la joie, la paix aussi, que Dieu nous donne, en fait. Parce que c'est vrai que des fois, on est tellement bien prospère, je ne sais pas quoi, comment dire ces mots, mais on n'est pas en bonne santé, on n'arrive pas à usufruire de cet argent, quoi. C'est comme le monsieur qui est venu nous donner la formation. Il a dit que depuis qu'il a perdu ses dettes, depuis qu'il a perdu sa femme et qu'il est avec cette femme maintenant, et qui lui, il les offrit de bien, qu'il multiplie et oui. qu'il est bien, quoi. Voilà, je pense que c'est ça aussi que c'est le plus important.
Alors effectivement, dans le royaume de Dieu, les richesses comme l'amour, il y en aura. Mais très concrètement, quand Dieu parle vraiment des richesses injustes de ce monde, il parle de l'or, de l'argent, de l'or, de l'argent. Il ne parle pas de l'or, je m'excuse par rapport à ça, excusez-moi. Il parle de la monnaie de ce monde. Il parle vraiment des choses périssables de ce monde qui vont passer, qui n'ont aucune contre-valeur, qui sont inventées des hommes, etc. Et dans le ciel, effectivement, il y aura des richesses qui vont durer toujours. Certains passages de la parole de Dieu parlent que, oui, effectivement, des choses sont faites en or, etc. Mais après, on peut extrapoler à l'amour, le pardon, la grâce, etc. Il n'y aura plus de pardon dans le ciel. Enfin, je ne sais pas si je me trompe en disant ça, Raymond, mais en tout cas, je crois que dans le ciel, il n'y aura plus de pardon. On a été pardonné, on sera dans le ciel et ce sera merveilleux. Donc simplement, pour reprendre ce que Francine disait, dans le verset 11... il y a écrit donc, si on peut le relire, si donc vous avez été fidèle. Le mot donc, j'aimerais juste accentuer ça, explique toujours qu'il y a une conclusion d'un raisonnement, si on applique textuellement, d'un raisonnement qui est vu avant. Et c'est ce que disait, je pense, Ezekiel et Sarah, celui qui est fidèle dans les moindres choses. L'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Effectivement, Dieu veut déjà nous voir à l'œuvre dans des choses petites, et ça, il l'associe aux choses, aux richesses injustes. Si vous êtes fidèle dans la gestion des richesses injustes, les petites choses, donc il fait cette corrélation-là, alors vous pourrez, à combien plus forte raison, vous pourrez gérer les vraies richesses. D'accord ? Si les choses qui n'ont pas de valeur aux yeux de Dieu, on sait déjà bien les gérer, bah, ceux qui ont de la valeur pour Dieu, bah, on va savoir les gérer bah, d'une façon extraordinaire aussi. Est-ce que c'est OK, Ezekiel ?
Ouais, j'aimerais savoir. Enfin, je ne sais pas si ça correspond avec ça, mais moi, je l'ai compris comme une sorte de distinction dans le temps entre... ce qu'on a, enfin, entre guillemets, hérité de la terre à la naissance, comme les richesses injustes. Et les vraies richesses, c'est quand commence à partir du moment où Dieu dit, t'as été bon là-dedans, maintenant moi je vais te donner ça, 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 et tu vas faire avec ça, 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 ça. Je ne sais pas si c'est...
Est-ce que tu peux reformuler ? J'ai juste pas compris la deuxième partie. Quand tu as dit, je vais te donner ça.
Je pense que si les vraies richesses, c'est... Ça... Enfin, je ne sais pas si c'est ça, mais est-ce que ça commence à partir du moment où on va dire les choses sérieuses commencent, en gros. Enfin, je sais pas si...
Pour moi, personnellement, les vraies richesses, ce sera pour plus tard. C'est dans le royaume de Dieu, les vraies richesses. Qui vous confiera les vraies richesses? Donc, ça veut dire qu'elles ne sont pas encore confiées, à mon avis. Donc, mais justement, si dans les étapes qu'il y a, justement, les choses qui commencent, les choses sérieuses commencent sur cette terre, c'est toujours dans les richesses injustes. Et tu peux être dans les choses sérieuses avec des richesses injustes en ayant vraiment tu gères super bien ces richesses injustes. Bah, du coup, peu importe le niveau, on va dire, peu importe le level, bah, pour plus tard, t'es un candidat pour que Dieu, il n'y a aucun problème qui te confie les vraies richesses. Et il y a, on ne le voit pas ici clairement, mais il y a des passages qui nous disent que oui, plus on a été fidèle dans les choses injustes de ce monde, on aura peut-être selon une mesure différente à gérer plus tard. Donc, il y a une différenciation qui est faite à ce niveau-là, mais c'est dans d'autres versets. Et puis, Dieu nous confie des choses selon comment on sait gérer aussi. Bruno, est-ce que... Pierre ici.
C'est quoi exactement les richesses injustes? Parce que Raymond l'avait posé et personne n'a répondu et moi, je voudrais bien savoir.
C'est la monnaie. La monnaie de ce monde. L'argent. Pas l'argent, la matière, l'argent qu'on utilise, la monnaie conçue des hommes, scripturaire, voilà. La monnaie scripturaire, ouais. Voilà, après ça peut aller très très loin, on peut aller sur tout ce qui est monnaie, comme disait Francine, les monnaies fictives, la bourse, toutes ces choses-là, tout ce qui est en rapport avec les choses que les hommes ont inventées, en fait, qui ne sont pas des bases bibliques, des bases de Dieu. Aristide ?
Ouais. Pour moi, les richesses injustes, c'est-à-dire si je ne suis pas capable de bien gérer fidèlement ce que j'ai, admettons les biens que j'ai, la voiture, la maison, le travail que Dieu m'a donné, bon, vous savez que c'est juste trompeuse, mais ça ne va pas durer longtemps. Donc, si je ne suis pas capable de gérer ça, donc les vraies richesses pour moi que Dieu me donne, si je gère bien, c'est les choses véridiques qui, pour moi, c'est les choses véridiques qui se multiplient pour que les autres puissent recevoir.
D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un a une réponse à donner? Est-ce que quelqu'un veut
pour une minute déjà, parce que je voudrais revenir sur ce qu'avait dit Valentin. Valentin, tu as raison. Voilà. C'est juste, je repensais à ça, un gérant, c'est quelqu'un à qui on confie toute la comment? On lui donne de diriger les choses. Donc un gérant, il peut très bien dire remettre des dettes comme il peut les... Voilà. Donc tu as absolument raison. Voilà, ça c'est déjà une chose. Donc merci, hein. C'est bien. Et puis des richesses injustes, pour moi, c'est pas des richesses injustes, c'est tout ce que tout appartient à Dieu. C'est vrai. Et Dieu, c'est injuste. Parce qu'il y a des gens. Moi, j'ai la santé, il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Donc, c'est des choses qui sont injustement réparties sur la terre et j'en profite. Voilà. Et à moi de les gérer, que ce soit de l'argent, que ce soit la richesse, que ce soit la santé, que ce soit tout ça. C'est injuste. Mais voilà, on ne mérite rien, mais on les a. Voilà.
Ok. Super. C'est vrai que c'est pas... C'est pas des choses qui sont évidentes à percevoir. Et une dernière réponse et on passe à la suite.
C'était surtout une question. Est-ce que les dons spirituels, on peut les considérer comme des richesses, de vraies richesses ou des richesses injustes, au final?
Est-ce que quelqu'un a un avis? Vas-y, Francienne.
Je veux juste revenir sur ce que Raymond a dit. Parce que enfin, je ne suis pas complètement d'accord. Quand tu dis injuste dans le sens où... Je veux juste savoir si c'est ce que tu voulais dire. Dans le sens où Dieu répartira entre guillemets la santé et finalement la maladie, c'est ça? C'est ce qui serait injuste? D'accord, mais ce n'est pas lié à une distribution que Dieu... Ah, ok.
D'accord. Pour revenir à la question de Valentin, est-ce que vous pensez que les dons spirituels sont du coup des richesses injustes ou des vraies richesses? Ok. Il faut que je creuse la question. Moi, perso, je ne me suis pas posé la question.
Moi, je pense que c'est injuste. Le principe, c'est le don, c'est une libéralité. Donc, c'est un acte que tu consens à une personne indépendamment de ce qu'elle fait ou elle ne fait pas. Donc, il y a une personne qui pourrait, par exemple, avoir la capacité, je ne sais pas moi, d'administration parce qu'elle aura travaillé pendant 10 ans, elle sera allée dans une école et elle se sera efforcée, elle aura galéré, et une autre à qui Dieu donnerait un don, même si effectivement ça se travaille, mais il aurait une aptitude naturelle, en fait. Donc, dans ce sens-là, voilà.
Et quelque chose d'injuste, ok. Vas-y, une dernière réponse.
Je suis assez pragmatique et du coup, j'avoue que moi, dans une formation comme ça, où on parle de gérer des finances, qu'on parle d'amour, de grâce, de pardon, etc., comme des richesses, ça me perturbe un peu parce que oui, c'est des cadeaux de Dieu, oui, c'est une richesse, mais je pense que là, dans le cadre de la formation, Dieu veut vraiment nous apprendre à gérer la partie financière. Donc, quand on parle de richesse injuste et de richesse juste, je pense que, en tout cas, dans le cadre de la formation de Courtélis, je n'ai jamais entendu parler d'amour, grâce, pardon, etc., comme des richesses, même si ce sont des cadeaux de Dieu. Enfin, je suis très terre à terre et peut-être je me trompe complètement. Mais pour moi, je pense que Dieu aussi, il n'a pas honte de parler de richesse en parlant de richesse, quoi, et pas forcément de grâce, bonté, etc., qui est le langage très chrétien pour dire, pour refuser de parler des finances aussi. Mm-hmm. Mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord.
Ok.
Je veux juste dire que dans certaines situations, de ce qu'on apprend, de ce qu'elle vient de dire Sarah, ou de ce qu'on entend par rapport à la parole de Dieu, il faut rester dans la réalité des choses, c'est-à-dire dans le quotidien. Et si on ne reste pas dans le quotidien, ça va être surnaturel. Et quand c'est surnaturel, il n'y a personne qui va comprendre quoi que ce soit. Et on va se poser des questions. À moins que tu rentres chez toi et puis tu te mets à genoux et tu dis Seigneur, bon ben alors qu'est-ce qui a été dit ce soir, donne-moi la réponse par rapport à ça. Donc c'est possible et il va le faire, ça c'est clair, mais je crois que là maintenant il faudrait juste, enfin moi je voudrais juste aussi comprendre comment je dois gérer mon argent, comme l'a fait Mathilde. Elle était concrète, on a passé 20 minutes, elle m'a dit tu enlèves ça et tu fais ça, et je l'ai fait. Et aujourd'hui, je ne suis plus à découvert. Donc là, c'est concret. Donc si on va dans le surnaturel, on peut. Moi, je peux prier, il n'y a pas de souci pour moi. Mais il faudrait juste qu'on puisse continuer par rapport à ça.
Oui, alors c'est une bonne remarque et puis un ressenti qui est légitime. Si je vous dis comment faire et que vous mettez en pratique les choses, les principes de Dieu, juste sans compréhension, sans fondement, vous allez l'entendre une première fois. Vous allez le faire et quelqu'un de l'extérieur pourrait dire, et là t'es allé voir un conseiller ou un truc qui t'a juste dit comment faire. Et c'est simplement ce que vous recevez, vous allez pouvoir le transmettre à quelqu'un. Vous allez pouvoir l'enseigner, vous allez pouvoir, déjà votre famille, on va le voir, l'éducation c'est un des chapitres. Mais si tous ces principes-là ne sont pas établis, là on met des fondements et c'est vrai que c'est spirituel, mais Dieu les a mis en place pour qu'on comprenne qui on est aussi, ce qu'on a et ce qu'on est appelé à gérer. Donc c'est vrai que y a pas besoin effectivement de spiritualiser les choses. Par contre, si on met pas en place ces fondements, tout ce qu'on va construire par la suite, ça va servir, alors je vais pas dire à rien, mais je pense que ça va avoir de l'effet. Mais une maison qu'on construit sans fondation, elle ne tient pas longtemps. Parce qu'un jour, il va y avoir des... C'est simplement, dans ce que je veux dire là, tu as peut-être, Nadine, besoin de faits très concrets, d'exercice. Mais là, on est en train de voir qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole en tant que gérant que nous sommes et que nous sommes appelés à être. Je ne sais pas si tout... Enfin, je pense et je suis presque persuadé que si tous ceux que nous sommes et tous les chrétiens de toutes les églises savaient exactement qu'on est des gérants des biens et qu'est-ce qu'il nous a confié, qu'est-ce qu'il ne nous a pas confié, là où est notre part, là où, où la part de Dieu s'arrête, la nôtre commence, je pense qu'on n'en serait pas là. Et je pense que c'est vachement important de définir que justement, qu'est-ce qui fait que je suis un gérant, ça commence où ? Je gère quoi ? Et j'ai besoin de qui et de quoi pour le faire, etc. Donc c'est ce qu'on va aborder. Mais le dernier point qu'on va voir ce soir, et c'est pour ça que j'aimerais qu'on puisse avancer, la question numéro 4, je ne sais pas si ça répond aussi à ta question, Nadine. Le fait est que on peut pas, il n'y aura pas que des exercices. Dieu veut expliquer sa parole aussi, et je pense que c'est important de la saisir parce qu'elle va débloquer des choses. Parfois, de faire un budget, c'est bien, mais de savoir pourquoi on le fait et qu'est-ce que ça engendre et dans quelle attitude je le fais, c'est ça, c'est le cœur. Le cœur qui est vachement aussi important derrière. D'accord. T'en prends juste le micro, ouais.
Moi, je me dis quand même le principe de donner et recevoir est basé sur l'amour. Tu vois, on a parlé de l'amour et je crois que beaucoup des principes de Dieu dans les finances c'est basé sur l'amour. Donner, tu donnes parce que tu aimes, pas parce que tu attends quelque chose en retour. Tu donnes sans attendre de la personne, mais tu sais que tu attends de Dieu. Tu sèmes dans les personnes, comme Kurt disait, que le meilleur investissement, c'est dans la personne. Mais si tu ne comprends pas l'amour pour les gens, tu ne donnes pas d'un cœur joyeux, d'un cœur libre. Et aussi en savoir que celui qui donne est beaucoup plus béni que celui qui reçoit. Toi aussi, à ton tour, tu dois recevoir pour que la personne qui te donne soit bénie en retour. C'est aussi une manifestation de l'amour.
Ok. Mais je pense que c'est ce que Nadine disait aussi avec d'autres mots, mais aucun problème. Ok. Alors, je propose qu'on en reparle en dehors, mais que ça puisse... Et je pense qu'on est tous alignés sur le cœur, qu'il n'y a pas de méprise, mais que effectivement, on va voir les choses. Le dernier point ce soir... qui est un point qui, je crois, est primordial. Et effectivement, c'est dans quelle mesure notre façon de gérer notre argent influe-t-elle sur notre relation avec Dieu ? Et c'est en fait pour ça qu'on fait la formation. Je crois que c'est pour que notre relation avec Dieu en prenne un coup, un sacré coup. Je crois que Dieu veut nous secouer aussi. Et puis je pense que si on a des clés... au travers de cet enseignement, c'est pour ça. Et je vais le défendre. C'est avec Mathilde, on croyait qu'on allait apprendre des exercices. Alors c'est des choses qui sont très importantes parce que j'ai dit avant que les principes sans application ne servent à rien, d'accord. Mais la première chose qu'on avait expérimenté avec Mathilde, c'est que on s'est rapproché du cœur du Père. On est venu auprès de lui, on s'est dit, wow, Seigneur, maman. On a besoin de toi et on a vraiment besoin que tu nous changes. Et c'est l'amour qui a commencé à grandir envers Dieu qu'on a commencé à expérimenter davantage et son amour qui vient pour nous à le ressentir davantage. Et c'est la relation qui est importante. Je vais avancer sur ce point. J'aimerais développer un aspect qui est, je crois, primordial de connaître et d'aborder. Je ne l'aborde pas suffisamment en profondeur, mais je crois qu'il est important d'en parler. Si nous sommes infidèles avec l'argent, bien sûr, notre relation avec le Seigneur en souffrira. Je crois qu'il y a deux façons de gérer nos biens. Il y a la façon selon le royaume de Dieu, inspirée par Dieu, et il y a la façon selon le monde, et selon vous, elle est inspirée par qui ? J'entends, ouais. Par Mammon, exactement. Et c'est lui à qui le diable a délégué cette partie, et c'est à lui qu'on a affaire. Alors ce soir, j'aimerais justement prendre du temps pour en connaître un peu davantage sur lui, parce qu'on parle effectivement de... On le cite, on fait souvent l'amalgame entre lui et l'argent. Et certains peuvent peut-être penser que l'argent, du coup, c'est pas bien. C'est pas voulu de Dieu. Non. C'est faut surtout pas, on se met de côté, etc. Et certains en ont développé une théorie de pauvreté, un évangile de pauvreté, en se basant sur ça. Donc, simplement, pour vous donner quelques explications qui sont, je crois, assez utiles, le terme araméen qui désignait autrefois le dieu des finances, c'est Mammon, d'accord ? Et Jésus l'a employé pour désigner une entité spirituelle en lien avec l'argent. C'est simplement ça qu'il a fait. L'argent, alors, il y a écrit en Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres », vous la connaissez, « car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'important à comprendre ce soir. Il y a un principe fondamental décrit dans ce passage. Si je paraphrase, il n'y a pas écrit qu'il est interdit de gérer ses biens selon les principes du monde, selon Mammon, et en même temps selon les principes du royaume. Il n'y a pas écrit « il est interdit », il est écrit « c'est impossible ». Donc, si c'est impossible de gérer soit l'un avec l'autre, ça veut dire que c'est soit l'un ou c'est soit l'autre. Donc, je vous laisse imaginer que si on ne gère pas selon les valeurs de Dieu, je vous laisse imaginer qui on est en train de servir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Donc, il est primordial que les chrétiens, les enfants du Dieu très haut se réveillent et se positionnent pour Dieu, selon ses principes, selon ses valeurs. Et attention, ça ne marche pas à 99% et le 1%, ok, c'est Seigneur, c'est tout ou rien. Et alors, aucune accusation, mais on a, je crois, à nous mettre devant Dieu et dire, Seigneur, j'ai besoin que tu changes mes mentalités, je veux voir là où je gère selon un principe du monde et là où tu veux m'emmener à gérer selon ton cœur, selon tes propres raisonnements. Donc l'argent en lui-même n'a aucune puissance, on est d'accord ? Un billet de 10 euros, il n'y a rien, il n'y a aucune puissance derrière. Vous pouvez en avoir des milliers, il n'y a pas de puissance. Mais l'esprit, donc c'est du papier ou bien des pièces, c'est du métal. Mais l'esprit qui est derrière, et c'est Jésus qui en parle, de cet esprit. C'est l'esprit qui est derrière l'argent, qui est puissant. Et c'est ça, c'est à ça qu'on doit se confronter. Le but de Mammon, c'est de nous rendre captifs, de nous faire aimer l'argent plus que Dieu, de nous contrôler, etc. etc. Ces objectifs ne sont pas à notre faveur. Et je crois qu'on a besoin de juste prendre conscience que le meilleur moyen que Mammon utilise, c'est le mensonge. Et parfois, on croit des mensonges. Et nous faire croire que l'argent est important et qu'il a un pouvoir, c'est un des plus grands mensonges. Parce que non, c'est Dieu qui a le pouvoir. Et c'est Dieu qui est important. Okay ? Et moi, je confesse que j'ai mis parfois sur l'argent beaucoup trop d'importance, beaucoup trop de valeur. Et finalement, Dieu me disait, mais attends, t'as pas besoin d'argent finalement pour faire ce que je t'ai appelé à faire. Est-ce que si vous imaginez la possibilité que Dieu retire toutes les façons de payer dans notre monde, est-ce que vous croyez que son royaume ne peut pas s'étendre? Est-ce que vous croyez que sans argent, Dieu peut faire les choses, peut agir, peut avancer, peut faire grandir, peut développer, peut construire les plus grands bâtiments qu'il veut? Enfin, il y a aucun problème. Mais qui c'est qui nous fait penser que non, c'est impossible ? Qui c'est qui nous fait penser que non, t'as besoin d'argent ? Qui c'est qui nous fait penser que ah, si t'as pas de travail, ben t'es dans la mise ? Qui c'est ? Voilà, c'est l'esprit. C'est pour vous faire comprendre que il y a quelque chose qui nous pousse. Il y a une entité spirituelle qui est là, qui existe, et j'ai envie en fait ce soir de la mettre en lumière, de simplement la révéler, de dire, ok, elle existe, voilà comment elle agit et qu'est-ce qu'elle fait. Donc 1 Timothée 6, verset 10, « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. » Donc, ça veut dire que c'est possible d'aimer l'argent, et c'est possible qu'on puisse aimer Dieu, on puisse être des chrétiens, et on peut s'éloigner de la foi. C'est écrit dans le verset 1 Timothée 6, verset 10. C'est exactement ce que Dieu veut nous mettre en garde. Donc, là où est notre cœur, c'est là où il y a une importance vitale. Okay ? Mammon souhaite détourner l'amour de nos cœurs qui revient à qui ? Il revient à Dieu. si on place notre amour dans quoi que ce soit d'autre, ça peut être, peu importe, là on parle d'argent, le problème c'est que, oui ça marche, oui il va se passer des choses, mais le bénéfice qui va en être retiré sera le bénéfice que maman veut nous donner. Et c'est là où c'est vachement important de nous... De prendre garde. Nous avons besoin d'argent pour servir Dieu. Oui, on a des factures à payer, on a des choses. C'est un moyen de paiement. On a besoin d'argent. Donc la théorie qui dit, oui, maman c'est l'argent, ou l'argent c'est maman, etc. Attention, on ne peut pas écarter d'une église le fait d'avoir besoin de ressources financières. Et c'est tout là, Dieu veut nous donner la capacité d'être des gérants pour ouvrir les écluses des cieux. Sur nos vies. Et plus on va être des bons gérants, plus il va nous donner des capacités financières. Je le crois personnellement, et je veux que ça se libère sur l'Église et que les chrétiens, ce ne soient plus les chrétiens fauchés ou des chrétiens, comme disait Kurt, qui ne donnent pas envie. Et je crois que cette mentalité de pauvreté qui a été mise et comme un joug et puis a été déclarée, peu importe par qui, n'est pas brisé, on ne va pas vivre ces changements-là. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vraiment se prendre conscience que oui, Seigneur, je crois que tu as des richesses infinies pour nous. Je crois que dans ton royaume, il y a vraiment des choses incroyables. Est-ce que vous croyez que Dieu est riche? Alors vous allez dire oui, ok, mais est-ce que vous le croyez vraiment? Et ça devrait se traduire par des actes et des raisonnements, des décisions dans nos vies qui sont en rapport et qui sont en accord avec ça. Si Dieu est ma source, alors l'argent est mon esclave. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça devrait être comme ça. Si Dieu est ma source, l'argent est mon esclave et je peux le contraindre à être utile pour le royaume de Dieu. C'est ce que Dieu veut. D'accord? Mais si l'argent est ma source, alors je suis l'esclave de Mammon. C'est une vérité. Elle peut, et donc c'est lui qui peut me contraindre, au cas contraire, à faire ce que lui veut. Mais la vérité, c'est que l'argent n'a jamais été conçu pour être mon maître. L'argent a été conçu pour être mon serviteur, mon esclave, et c'est moi qui décide de comment il va me servir. Et de combien j'en dispose, pourquoi j'en dispose telle et telle somme, etc. Donc la notion de budget, la notion de gérance vient à ce moment-là. Donc, mais on est d'accord, l'argent doit être notre serviteur, notre esclave, et nous, en tant qu'intendant, à nous de gérer cette ressource. Comme Dieu veut, selon ses principes. Mammon est associé à l'injustice. On parlait d'injustice avant. Est-ce que quelqu'un peut prendre Actes 8, versets 9 à 23? Si quelqu'un a le passage, Claudia, s'il te plaît. 9 à 23, oui.
Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande ». Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux, il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant, Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité.
Ok, une certaine version dit les liens d'injustice et l'amertume du fiel et les liens d'injustice. C'est important pour ce passage. Donc l'injustice a été transmise dans le monde directement par le diable à Adam et Ève. En Ézéchiel 28, verset 15, donc je reviendrai sur tout ce passage, Claudia, donc, que tu as cité. « Tu as été intègre dans toutes tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. » L'injustice qui est donc citée ici, donc une force qui nous pousse à agir, à choisir le péché. Là où j'aimerais nous conduire ce soir, simplement sur ce chapitre où on parle de Mammon, c'est qu'il y a le péché qui est les actes, qui sont les actes et la conséquence de quelque chose qui nous pousse à le faire. Et je crois que Mammon est à l'œuvre pour ça. D'accord ? Mais on a besoin de comprendre certaines choses. Ce qui explique Deutéronome 5, versets 9 à 10, où l'on voit que la faute des pères peut se transmettre chez les fils de 3 à 4 générations. Parfois, on ne comprend pas pourquoi ça fait. Pourquoi dans ma famille, il y a du divorce, il y a de l'alcoolisme, il y a des suicides, il y a de l'immoralité sexuelle, il y a des maladies, des choses qui se transmettent de génération, de génération, de génération. La Bible parle justement de ces liens d'injustice. Et c'est important pour nos vies de les déceler. Et dans Luc 16, verset 11, le passage qu'on a justement vu pour l'exercice du troisième jour, une version d'Arbinote parle justement du mammon injuste. Les richesses injustes de ce monde, il y a écrit le mammon injuste. Mammon est associé à l'injustice, justement, dans ce passage. Et pour Simon, alors qu'on l'entendait tout à l'heure, l'injustice résidait dans l'amertume du fiel qu'il avait en lui, l'amour de l'argent. Et en fait, on voit ici que Mammon, en fait, il était captif, quoi. Et que l'esprit de Mammon, au travers de l'amertume du fiel, l'amour de l'argent, il le tenait captif. Et quelque chose qui était sur sa vie qui le bloquait et qui l'a fait réagir comme ça. Moi je veux donner de l'argent pour recevoir la même chose que vous, alors que c'est des choses du royaume de Dieu qu'on ne peut pas acheter. C'est ce que les apôtres après lui ont répondu. Est-ce que vous comprenez les choses injustes que Mammon peut nous contraindre à vivre, souvent, donc c'est des schémas injustes que nous devons traiter dans nos vies. Pour cela, on a une clé que le Seigneur nous donne, c'est Jésus-Christ. C'est là où je veux en venir aussi ce soir. Bien sûr, on parle des choses qui nous lient, qui nous tiennent captifs, mais on a Jésus-Christ qui est là. Dans Ésaïe 53, verset 5, regardez le verset qui dit: mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour notre culpabilité et notre injustice. Il est bien noté injustice. Le châtiment nécessaire pour que nous obtenions la paix et le bien-être est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. L'injustice, c'est comme un poison capable d'entretenir un péché dans nos vies. Est-ce que vous arrivez à faire la différence entre un péché et l'injustice? L'injustice, c'est la force qui sous-tend la conséquence qui sera donc le péché par la suite. D'accord? Si on a laissé l'accès à Mammon dans notre vie, on lui laisse le droit d'exercer une force dans tous les domaines de notre vie qui vont nous faire commettre des péchés, qui vont nous faire commettre le suicide, qui vont nous faire commettre l'immoralité, etc., etc. On peut tout nommer. Mais ce que maman sous-tend dans nos vies, c'est une force qui est ici appelée justement les liens d'injustice. Mais Dieu, justement, est pour la justice. En 2 Corinthiens 5, verset 21, celui qui n'a pas connu le péché l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. On parlait tout à l'heure d'injustice. Raymond l'a bien dit que Jésus a pris toute injustice et pour lui, c'est la justice. Il veut qu'on soit justice de Dieu. L'antidote, justement, est décrit en 1 Jean, verset 1. Il y a beaucoup de versets. Si vous avez besoin des références, je peux vous les donner. J'essaye d'avancer pour pas traîner. Si nous admettons que nous avons péché et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner tous nos péchés et pour nous purifier de toute injustice. Tout ce qui n'est pas conforme à sa volonté en intention, en pensée, en acte. On voit ici qu'il y a le péché et il y a l'injustice qui nous fait commettre le péché. Et il y a des choses qui, dans ma vie, par exemple, j'ai dû... Et c'est ce qui est trop excellent avec Dieu quand on creuse une formation, quand on cherche. Dieu veut nous amener plus près de son cœur. Je parlais tout à l'heure de relations. Et oui, vous allez être des personnes prospères, mais je crois que Dieu va guérir des choses dans vos cœurs au travers de ce thème. Et c'est ce qu'il a fait dans ma vie. Il m'a conduit à prendre conscience que dans ma propre vie, il y avait des liens d'injustice, des choses... peut-être transmises par mes pères, des choses qui ont besoin d'être brisées, et des choses qui ont besoin d'être confessées, qui duraient sur ma vie. Et lorsque je l'ai fait, l'injustice a été brisée, la source qui sous-tend le péché a été brisé ensuite, et j'ai été libéré. Okay ? Et c'est ce que Dieu veut faire dans votre vie. C'est ce que Dieu veut faire. Et c'est pour ça que je le développe ce soir. Oui, on peut être des gérants prospères et des gens fidèles. Mais si ça ne va pas, et si toutes les fois que vous avez à gérer une facture, eh bien derrière, il y a maman qui vous dit « Ah, tu vas manquer. Ah, ça va être... » Vous pouvez être des super gérants, mais vous n'allez pas être libre. Donc c'est important de gérer selon les principes de Dieu. Mais c'est aussi important de rentrer dans ce que Dieu veut. Il veut qu'on soit libre. Il veut qu'on soit ses enfants. Il veut qu'on soit... il y avait écrit, je regarde juste avant, que nous obtenions la paix et le bien-être. C'est génial d'être des super gérants, mais si on n'est pas en paix et si on n'a pas le bien-être, ça ne sert à rien du tout. Et je crois que maman doit être démasquée. C'est pour ça que je veux en parler ce soir. Et je l'aborde très rapidement. Je vous donnerai des références si vous voulez, venez vers moi, des lectures pour le démasquer. On a besoin de recevoir la liberté et je crois que je suis aussi en cheminement, il y a des choses qui ne sont pas réglées. Je crois que Dieu veut nous amener et il le fait avec grâce, il le fait avec douceur, il le fait comme un père, ok ? C'est pas comme un père, j'ai fait un petit lapsus, comme un père. Mais sachez une chose, ce n'est pas par nos propres forces. Et parfois, je me suis mis à genoux et dans ma chambre, je pleurais, je dis « Seigneur, je te demande, j'avais l'impression de devoir m'arracher le cœur. Je me dis, ça part pas, ça, je veux plus vivre des choses comme ça. Comme si je devais, moi, par mes propres forces, à coup de prière, à coup de verset, avant de parler de déclaration, etc., me changer. Mais Dieu m'a montré, si simplement tu essaies de combattre par tes propres forces, tu vas pas y arriver. C'est le sang de Jésus qui peut te rendre libre. Et il n'y a aucun autre remède à tous les problèmes et à tous les... Jésus a payé sur la croix. Le seul combat que Dieu nous demande de gérer, combat, le bon combat de la foi en quoi ? En l'œuvre de la croix. Et l'œuvre de la croix, c'est ce qui va nous rendre libres et c'est ce qu'on a besoin de recevoir dans tous les domaines de notre vie, mais encore plus là où il y a un domaine central dans la parole de Dieu. La gestion des biens, des richesses et de l'argent. Donc laissons le Saint-Esprit faire son œuvre en nous. Laissons le Saint-Esprit juste nous dire hey, « Regarde, là peut-être viens, faut qu'on parle. J'aurais des choses à te dire. Là, viens, je vais te parler sur ton enfance. Viens, je vais te parler sur tes parents. Viens, je vais te parler sur comment tu gères avec ta femme et comment tu as fait avec tes enfants. Viens, là, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Là, tu as de la colère. Là, tu as des choses qui sont... Là, tu as un esprit de rejet. Là, tu as des choses qui sont sur ta vie qu'il faut qu'on enlève. » va en parler à un tel, va, lui, il peut te faire, tu peux faire confiance. Va confesser. C'est des choses qui ne sont pas évidentes à faire ni à entendre, mais lorsque j'ai commencé ce livre, Bien, Richesse, Argent, c'est un livre que je vous conseille, c'est une mine d'or. Ce n'est pas la parole de Dieu, mais ça déclare la parole de Dieu. Et ça commence par des choses comme ça. Les chrétiens, on veut tous être prospères à fond les bananes, mais il y a des étapes avant. Et la première étape, c'est que Dieu veut nous restaurer, il veut prendre soin de qui on est d'abord. On est ses enfants. Imaginez, vous avez des enfants, pour ceux qui ont des enfants, ok, vous donnez un sac avec des billets de banque plein aux as, et vous savez qu'il se sent pas bien, et chaque fois qu'il va se coucher, il a peur le soir, et chaque fois que voilà. Je crois que si nous on sait le faire, si on le discerne, stop, attends, lâche les billets, viens un peu avec moi et tout, on va parler. Je crois que Dieu veut vraiment le faire et je me parle, franchement, je vous annonce ça, mais je suis content de pouvoir le dire avec autant d'assurance parce que Dieu le fait dans ma vie. Et j'ai vu des choses tomber et je veux encore voir des choses tomber. Amen. Cool. Et c'est pour ça que ce soir, je voudrais mettre à nu l'esprit de maman et voici, je voudrais vous donner 10 exemples, 10 symptômes de son influence dans la vie des croyants. En gros, si vous vous retrouvez dans une des catégories, et puis je peux le dire, moi je me suis retrouvé, eh ben on peut dire aïe aïe aïe. Si on n'a qu'une, ça va. Si vous avez les 10, eh ben, levez-vous tout de suite, on prie pour vous. Le premier, vous êtes prêts à noter, c'est les 10 symptômes de l'influence de Mammon dans notre vie. Yes. Le premier, c'est le souci et l'anxiété à propos de l'argent. C'est un souci pour vous, dès qu'on aborde ce thème, dès que dans votre famille, on commence à parler d'argent et que les esprits s'échauffent et qu'il y a des confrontations, il se peut que... Voilà. Le deuxième point, c'est une mauvaise gestion de l'argent. Ah, c'est fou, je ne sais même pas où il est passé. Tous les mois, je reçois un salaire, mais je ne sais pas où il est passé. C'est bizarre, quoi. Une mauvaise gestion de l'argent. À qui c'est pas arrivé? Ok. C'est sans aucune condamnation, mais au nom de Jésus, je crois qu'on va faire tomber des murailles. Et le troisième point, c'est un manque permanent d'argent. Je suis tout le temps en manque d'argent, j'en ai jamais assez. Oh là là. Voilà. Vous voyez, si vous arrivez à traduire le... Oh là là.
C'est de l'ordre de l'impression ou du pratique? Alors, on ressent toujours un manque d'argent en plus ou le manque d'argent concret?
Qu'on le constate? Non, on ne le constate pas. Ça, c'est on a toujours, on le vit, on a toujours un manque d'argent dans notre tête, un raisonnement, on est toujours en manque d'argent. On n'a jamais, je suis jamais assez, j'ai jamais assez là. Je suis toujours en manque d'argent.
C'est le raisonnement.
C'est plus dans la mentalité. Après, ouais, on aimerait tous en avoir un peu plus. Enfin, je sais pas. Le quatrième point, on avance, la mentalité, je ne peux pas me le permettre. Et ça, j'ai dû refuser que ma langue le proclame. Je ne peux, j'ai essayé, je fais un travail, mais je l'ai dit à Mathilde, on n'a plus le droit en tant que chrétien de dire ça, je ne peux pas me le permettre. Je ne peux pas me le permettre. Est-ce qu'on arrive, ça va être un des points centraux de la formation. Courte en a parlé, c'est le fameux cercle. Combien, est-ce que vous savez répondre à cette question, combien me faut-il pour avoir assez? Si vous ne savez pas précisément au centime près répondre à cette question, vous êtes au bon endroit. Pourquoi? Parce que quand on définit combien on a besoin chaque mois ou bien par année, enfin on va voir ensemble, combien on a besoin pour avoir assez. Ce combien on a besoin pour avoir assez comprend les besoins, les désirs et les obligations. Partir en vacances, parce que je sais déjà ce que vous avez pensé. Oh là là, Je suis sûr que Dieu veut pas que je parte en vacances. Donc, mais je démonte un petit peu les faux raisonnements. Tout ça définit, une fois qu'on dit « Seigneur, j'ai besoin de 2352,66 €». Et tout ce qui vient par la suite, quand dans ta boîte aux lettres, tu vas trouver un chèque de 150 000 €, ou quand quelqu'un va te donner une bénédiction à l'église, ou quand par terre dans la rue, tu vas trouver un billet de 500, ben, tu ne vas pas améliorer tes vacances, tu ne vas pas améliorer ton niveau de vie, tu ne vas pas t'acheter la nouvelle BM qui est sortie, parce que ta voiture, c'est justement dans ton cercle fermé ce que tu as dit « Seigneur, ça c'est ce que j'ai besoin, ça me convient ». On a le droit de faire des prières, on a le droit d'augmenter nos revenus, c'est pas figé dans notre vie à 2 000 €, voilà. Mais une fois que vous avez fait ça et que Dieu ouvre les écluses sur votre vie, vous savez que ça, c'est pour bénir quelqu'un, pour bénir une œuvre, pour faire quelque chose que Dieu veut. Donc Seigneur, l'attitude que j'ai, c'est pas j'augmente ma qualité de vie, c'est je bénis, je cherche la volonté de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ces finances ? Et je crois que Dieu va ouvrir les écluses sur nos vies à partir du moment où on l'aura fait. Le cinquième point, et justement, maman ne veut pas qu'on réponde à ce cercle, qu'on réponde à cette question, combien on a besoin pour avoir assez. Si on n'y répond pas, il nous tient, quoi. Enfin, je module. Il a une influence qu'il ne devrait pas avoir. Le cinquième point, c'est les achats compulsifs. Je ne désignerai personne, mais je sais que quand une femme passe devant une boutique de chaussures, c'est X fois, on a envie. Et quand les garçons passent devant un garage de voiture, il y a des dollars dans les yeux. Bon, bref. Mais les achats compulsifs, c'est vous savez pas pourquoi vous achetez. C'est ça le problème. Ah, vous n'avez pas besoin du truc que vous achetez, mais vous l'achetez quand même. Et puis, il se retrouve chez vous. Voilà, vous l'utilisez peut-être une fois. Ça, c'est les achats compulsifs. Le sixième point, la peur de n'avoir pas assez d'argent pour satisfaire à ses propres besoins. Peur de manquer. Peur d'être sur les réserves tout le temps, ou pas avoir de réserve. Le septième point, c'est l'avidité. L'avidité, c'est acquérir et posséder de façon démesurée. Oh, il me faut la dernière BM et tout. Une fois que la dernière BM, elle passe à l'avant-dernière, il me faut de nouveau la dernière BM. L'avidité, ça s'appelle. Posséder, purée, si je ne possède pas quelque chose, si je n'ai pas une maison, si j'ai pas une super villa, je suis rien. C'est l'avidité. L'insatisfaction. C'est le point numéro 8, ouais. C'est le point numéro 8. L'insatisfaction, vous savez ce que c'est. Le point numéro 9, être esclave des dettes. Avoir des dépenses non prévues, non budgétisées. J'achète, c'est parti. Je peux pas me le permettre, c'est pas grave, j'achète. Tout est fait pour. C'est être esclave des dettes. Et le dixième point, c'est un accent exagéré sur l'argent et une surestimation de son véritable pouvoir. En gros, l'argent, c'est le big boss. On exagère la véritable valeur de l'argent. Un accent exagéré sur l'argent et on le surestime. On surestime son pouvoir. C'est l'argent qui doit nous poursuivre et ce n'est pas le contraire. On est d'accord ? Point 10. Un accent exagéré, donc le point 10, un accent exagéré sur l'argent et une surestimation de son véritable pouvoir. Ok. Je terminerai donc par le passage d'Éphésiens 4, verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Est-ce que vous saisissez la portée de ce verset ? On n'est pas appelé à travailler pour gagner de l'argent, comme Mammon envie de nous susurrer à l'oreille chaque lundi matin quand vous vous levez et que vous avez une famille à charge, etc. Mais pour en donner et le faire travailler pour nous. Je redis le verset, Éphésiens 4, 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, arrêtez de voler, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains, travaillant pas au black, mais pour avoir de quoi donner, il n'y a pas écrit pour avoir de quoi subvenir à ses propres besoins, il y a écrit pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. À nous de repérer qui est dans le besoin, ça ne veut pas dire un pauvre forcément au feu rouge. Attention, attention, on va le voir ensemble. Mais oui, il y a de ça aussi. Mais qui est dans le besoin, et c'est ça ce que Dieu veut qu'on fasse. Être des gérants fidèles de son argent. Pourquoi ? Parce que Dieu a dit que si on fait ça, il s'occupe de nous. Et à nous d'expérimenter ça. Donc nous verrons la prochaine leçon, la part de Dieu. Pour ceux qui, donc, je l'avais écrit dans l'email, comme entre ce soir et mercredi, il n'y a pas énormément de délai, et comme la leçon numéro 1 était plutôt courte, je vous avais encouragé à faire déjà la préparation du deuxième module, d'accord ? Mais ça ne va pas toujours être comme ça, parce que donc, la semaine prochaine, on a une semaine de battement, vous avez plus de délai pour travailler. Parfois, on aura 10 jours de battement, on aura les vacances, donc ne vous inquiétez pas, et puis... Pas de pression, mais plus vous allez creuser dans le sujet, plus Dieu va vous ouvrir les yeux et vous allez gagner en confiance. Et voilà. La semaine prochaine, on voit la part de Dieu. Oui, alors je vous enverrai un email pour vous donner toutes les autres dates. Donc, mercredi prochain, c'est le 15. Non, 18. 18. Et le mercredi suivant, le 25. Et ensuite, on a une pause, c'est les vacances de Pâques. C'est pour voir si tout le monde suivait, vous êtes tous endormis. C'est les vacances de la Toussaint, donc on aura une semaine de break, et puis on reprendra ensuite. Donc le 18 et le 25, et puis par email, je vous enverrai les prochaines dates, comme ça vous avez jusqu'à la fin des 12 séances le planning. C'est toujours les mêmes horaires de 19h à 21h. Donc, mercredi, il n'y a pas de bouchon, ok ? On a commencé un petit peu... On est dans les temps, on est dans le timing. Ouais. Ok, alors, micro, une question. Si vous avez des questions...
En fait, quand tu as dit le 6, j'ai pensé, est-ce qu'il faut avoir une réserve ou est-ce que c'est bien d'avoir une réserve ou est-ce qu'on le verra une autre fois ?
Oui, on va le voir. On va le voir et je crois que Dieu est extrêmement, extrêmement sage et on va voir comment développer justement un budget sage. Et il comprend effectivement des réserves. Il y aura tout le point sur les enfants. Donc sur l'héritage, sur les choses comme ça, il y a des choses qu'on peut mettre en place dès la naissance de nos enfants. Et je crois que Dieu a vraiment des choses à nous transmettre par rapport à ça. Donc oui, il y aura l'aspect réserve, l'aspect économie. Donc ça ne veut pas dire qu'on a peur de manquer forcément. Si on met de côté, ça va être des points qu'on va aborder. Est-ce que vous avez d'autres questions ? On va pas trop tarder, j'aimerais... Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai dit au début qu'on donnerait des sujets de prière. J'aimerais soit qu'on le fasse maintenant et que ça soit fait assez rapidement, je vais noter, ou soit vous me faites un email et puis je partage la liste à tous les participants. C'est... Les commentaires, il faut qu'on les mette après. Exactement. Okay. C'est bon. Alors, très bien. Alors, en principe, le verset à apprendre pour cette semaine, c'était Luc 16, verset 11. Je ne voulais pas mentionner, je ne voulais pas vous mettre de pression. Ce n'est pas un problème de ne pas apprendre les 12 versets jusqu'à la 12e séance. Pour la semaine prochaine, je vous encourage donc à avoir le verset 2, qui est un peu plus long, mais ça s'apprend. Donc le verset numéro 2, 1 Chronique 29, versets 11 à 12. On ne récitera pas tous, mais je pense que certaines personnes le feront, on verra. C'est le 1 Chronique 29, versets 11 à 12, en français courant, peu importe votre version. L'idée, ce n'est pas d'avoir mot à mot le verset, c'est d'avoir de le comprendre déjà. C'est exactement ça. Ça ne sert à rien de réciter pour réciter. Comprenez le verset. Voilà. Donc le verset 1 Chronique 29, 11, 12, c'est le verset 2 qui est sur votre cahier à la fin. Vous avez une liste, c'est l'avant-dernière page, et vous avez tous les versets qui sont mentionnés dessus. Une question ?
Par rapport au verset, c'est juste une question technique. Je vois qu'il y a plusieurs versions. On peut choisir n'importe laquelle ou il faut prendre la version qui est écrite sur le cahier ?
Aucun problème. Tu peux prendre la version de ton choix. Si vous ne dormez pas avec une français courante à côté de votre oreiller, il va falloir aller voir Yvonne pour en acheter une. Question ?
J'ai vu que dans la suite, il y a des tableaux. Est-ce que ces tableaux sont disponibles en format Excel aussi ?
Non.
Les tableaux de gestion ?
Non.
Non, ok.
On va aborder les choses. J'ai développé des choses pour moi que je pourrais vous transmettre, mais... L'outil de travail, c'est le cahier. Faites-vous des copies. C'est écrit dedans. Vous avez le droit de vous faire des copies pour votre usage personnel. C'est ce que je rappelle aussi. Tous les documents qu'on vous envoie par email ou au travers du livre, c'est pour votre usage personnel. Je parle du PowerPoint aussi. Ça a été produit pour la formation. Et ceux qui ne font pas la formation n'ont pas accès. En principe, donc respectez ça, s'il vous plaît. Donc voilà, vous pouvez vous faire des copies pour votre usage personnel autant que vous voulez, si vous voulez faire des exercices et des exercices. Mais, je rappelle, aucun chiffre sans votre consentement sera divulgué ou, voilà, on parle les salaires, mais non, aucun problème, on restera vraiment dans la confidentialité. Et faites les exercices. Alors il y a toujours une page d'exemple, c'est pour ça qu'on voit des tableaux qui sont déjà pré-remplis, on ne comprend pas tout de suite. C'est l'exemple. Adaptez vos exercices à votre situation. Avec Mathilde, on a une liste comme ça où on a vraiment adapté à nos dépenses, etc. Ne restez pas figé bêtement sur un exercice parce que c'est écrit comme ça, je fais que ça. Faites ce qui vous correspond et que vous puissiez avancer. Est-ce qu'on a encore des questions ? Alors, est-ce que j'ai fait le tableau actif-passif, c'est-à-dire en exercice ? Alors, avec Mathilde, on tient un budget actif-passif. Nous, on ne l'a pas fait. Alors, attends, je vais juste regarder. Voilà. Oui, carrément. Oui, on a alors avec Mathilde, on n'a pas peur d'en parler, s'il vous plaît. Oui, la situation financière personnelle, c'est important de faire un point régulièrement, une fois par année, c'est très bien. Une fois dans la vie, c'est un petit peu trop peu. Ça nous permet de voir où c'est qu'on en est, parce que parfois on dit « Ah, j'ai rien, ah, j'ai pas de finances, j'ai rien ». Et finalement, on se rend compte qu'on a un patrimoine qui est peut-être pas financier avec du cash, mais on a des choses qui ont de la valeur, quoi. Si vous avez une Ferrari dans le garage, vous avez peut-être plus beaucoup d'argent dans votre portefeuille, mais vous avez une Ferrari dans le garage. Mais donc c'est vachement important, effectivement, de voir où c'est que vous en êtes, parce que le but, c'est de sortir des dettes le plus vite possible, on va le voir en détail, c'est très important. Dieu ne peut pas ouvrir les écluses des cieux et nous donner en surabondance si on a déjà, alors je prends des pincettes, si on a des dettes, il peut le faire pour régler nos dettes s'il voit qu'on est un gérant fidèle et qu'on a mis des actions en rapport avec ses principes. Et on va le voir aussi. Si quelqu'un décide de rembourser ses dettes en ayant demandé pardon, etc., et dit « Seigneur, j'ai envie de rembourser mes dettes, j'ai besoin d'un miracle », Dieu peut ouvrir les écluses, c'est ça que je veux dire. Mais il ne peut pas si on dit « Ok, j'ai des dettes là, je ne veux pas, je veux rien savoir de ça et je veux consommer, etc. » Ce n'est pas possible. Donc c'est vraiment cette mentalité-là qu'on va aborder dans les exercices aussi. C'est OK pour vous? Cool. Encore une question, oui? Ah.
Non, je ne sais pas si vous avez entendu hier, la dette du monde, c'est 230 000 milliards de dollars. 230 000 milliards de dollars, c'est-à-dire 300% du PIB mondial. C'est-à-dire c'est trois fois plus que
ce qu'on peut. Voilà.
Ouais, c'est incroyable. Et ça vient de la Chine. Voilà.
Ok. Ce sera. Donc le constat est alarmant. Pour les personnes qui n'ont pas Dieu. Et j'avais des craintes lorsque même en tant que chrétien, ben, je me suis dit, wow, on va où là, etc. Ça va être la galère. Et cette formation a vraiment clarifié les choses et m'a donné beaucoup de sérénité, de paix. On affronte les choses. Et c'est logique, un Dieu puissant qui a des choses pour ses enfants. À nous de les découvrir et de les vivre. Ok ? J'attends votre email. Envoyez-moi vos sujets de prière. Pas mercredi, pas, enfin, allez, on se met pas de pression, mais simplement, c'est très important, et puis que les uns et les autres, on puisse prendre à cœur le sujet des autres. J'aimerais prier pour finir, et je crois que j'ai tout dit. J'espère que ça vous a motivé, que ça vous a fait du bien, que, ok. Père, je te demande. Je te dis merci parce que ce soir, c'était encore un bon moment, un excellent moment, Seigneur, pour parler de toi, pour parler de ta parole, pour parler de ce que toi tu dis et pas de ce que nous on dit. Et je crois, Seigneur, que ça, on a commencé à planter, à fonder, on a commencé à mettre des choses qui vont te permettre, Seigneur, de placer des briques sur ces fondations, et je crois que tu vas faire des choses extraordinaires avec la vie de chacun. Je le déclare au nom de Jésus sur ces participants, sur mes amis, sur mes frères et sœurs en Christ. Je crois, Seigneur, que vraiment, Seigneur, on va voir des changements, on va voir des choses qui vont être merveilleuses, et c'est pas grâce à moi, Seigneur, mais c'est grâce à ton esprit, c'est grâce à toi, Jésus. Tu as payé le prix, et ça vaut la peine, Seigneur, qu'on vive les réalités et tes promesses. Alors merci Seigneur, encore parle-nous toute cette semaine, viens nous confronter, viens nous challenger là où il faut Seigneur, parce que c'est bon Père. Merci parce que tu es un papa qui est tellement aimant et tu vas nous emmener plus loin. Alors fais-le pour chacun Seigneur, ne laisse personne de côté comme tu sais si bien le faire, que tu sais bien prendre soin des gens un après l'autre. Et vraiment merci Père, au nom de Jésus. Que tu puisses nous raccompagner ce soir, vivre un excellent week-end et que pour la semaine prochaine, on soit encore enflammé par toi. Amen. Merci d'être venu en tout cas et repartez avec la niaque.